This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir au Kenya et à Bruxelles, ce sera ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. Trump à la Maison Blanche, notre rendez-vous du lundi avec Frédéric Carbone en direct de Washington. 18h55, c'est l'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde consacré à la cyberattaque mondiale de ce week-end. Mais tout de suite, quelle politique européenne pour la France, quelle relance de l'Union européenne?
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
La visite à Angela Merkel est quasiment devenue un rituel diplomatique pour tout président de la République prenant ses fonctions. Emmanuel Macron n'y déroge pas, il est en ce moment même à Berlin. On s'en souvient, François Hollande, son prédécesseur, n'avait pu imposer une autre politique européenne et était revenu à plusieurs reprises bredouille de Berlin. 5 ans et un second tour de la présidentielle avec Marine Le Pen plus tard, Emmanuel Macron dispose-t-il d'une conjoncture plus favorable? On pose la question ce soir à Guy Verhofstadt. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe au Parlement européen. Mm-hmm. Vous êtes avec nous en direct de Strasbourg. Vous souteniez Guy Verhofstadt, Emmanuel Macron pendant cette présidentielle. Mm-hmm. J'imagine que vous êtes soulagé de voir un pro-européen à l'Élysée.
Oui, tout à fait. Naturellement, le plus important est encore à faire, c'est-à-dire de réaliser ce projet d'Emmanuel Macron concernant l'Europe, ce qui ne sera pas facile, mais ce qui est absolument capital. Parce que si on ne réussit pas maintenant, dans les années à venir, à refonder l'Union européenne, ce sera le retour plus tard, en 2022, des nationalistes et populistes. Et ça, il faut éviter, en tout cas.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment, là, aujourd'hui, je rappelais le contexte, l'élection d'Emmanuel Macron, qui était quasiment le seul candidat ouvertement pro-européen, le second tour face à Marine Le Pen, est-ce que vous pensez que, du côté de l'Allemagne, on mesure l'urgence et l'importance du moment dans lequel on se trouve?
Eh bien, la première réaction était quand même un peu décevant parce que j'ai entendu beaucoup d'hommes politiques allemands dire un budget de l'euro pour l'eurozone, ça ne va pas. Bon, c'était plutôt nein, hein, en allemand. Un ministère des finances européens, nein. Des obligations en euros, nein. Je dois dire que j'espère que l'entretien entre Angela Merkel et Emmanuel Macron va être différent et que les Allemands vont devoir comprendre que pour sauver l'Union européenne, c'est pas suffisant d'avoir un pacte de croissance et de stabilité qui n'est jamais appliqué, mais qu'il faut vraiment changer les institutions en Europe, créer une gouvernance de la zone euro, créer un budget de la zone euro, créer un ministère des finances de la zone euro, créer un trésorerie de la zone euro, etc., etc. Voilà les grands défis.
Il y aura une conférence de presse dans une vingtaine de minutes, conférence de presse commune, Angela Merkel, Emmanuel Macron, donc on verra le résultat de leur premier entretien. Mais dites-nous, Guy Verhofstadt, est-ce que vous connaissez la position de la chancelière face à ce défi qui est de relancer l'Europe aujourd'hui?
C'est difficile à dire parce que Angela Merkel n'a jamais en fait dévoilé les dernières années un grand projet européen. Il faut surtout se baser sur les propos du ministre des Finances allemand, Monsieur Schäuble, donc qui en tout cas pour lui, ce n'est que le pacte de stabilité qui compte et tout le reste non. Et donc moi j'espère que Emmanuel Macron peut convaincre la chancelière de vraiment entrer dans une autre phase de la reconstruction européenne. Encore une fois, Parce que il faut quand même le dire, depuis le Brexit, hein, depuis la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, il y a eu un changement de l'opinion publique. L'opinion publique est encore très critique envers l'Union européenne. Donc il ne faut pas avoir une explication honorée, je dirais, des résultats en France. Les gens sont encore très critiques envers l'Union européenne. Ils trouvent que l'Union ne suffit pas comme ça fonctionne aujourd'hui. Toujours trop tard, trop faible dans ses mesures. Et donc, depuis le Brexit, on voit dans les élections aux Pays-Bas, dans les élections en Autriche, maintenant en France, que les gens veulent donner une nouvelle chance à l'Europe. En disant aux hommes politiques qu'ils ont élus, allez-y maintenant, refondez cette Union européenne, parce qu'on ne veut pas être aussi idiot que les Britanniques de sortir de l'Union européenne et de détruire ce projet européen. Et j'espère qu'Emmanuel Macron peut donner ce message à la chancelière et convaincre la chancelière, ensemble avec l'axe franco-allemand, d'aller de l'avant dans cette construction européenne.
Le constat, on le connaît, Guy Verhofstadt. Tout ce que vous venez de dire, on le sait. Ça a pris une tournure critique avec le Brexit et un certain nombre de rendez-vous électoraux en Europe. Mais on commence par quoi ? Est-ce que je vous posais la question de savoir si vous connaissiez la position d'Angela Merkel ? Est-ce que vous connaissez la feuille de route précise d'Emmanuel Macron ?
Je connais quand même les propos qu'il a tenus déjà depuis un certain temps. Je l'ai encore rencontré à Strasbourg il y a un an, Emmanuel Macron, quand il était encore ministre de l'économie du gouvernement français. Et déjà à ce moment, il disait très clairement qu'il faut miser sur une avenir communautaire, presque fédéral, je dirais, de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait capital. Et où Emmanuel Macron est tout à fait différent de ses prédécesseurs. Normalement, un président français, il dit l'Europe, c'est important, la France doit diriger l'Europe, et voilà, c'est un peu le programme d'un président français en ce qui concerne l'Europe. Avec Emmanuel Macron, c'est tout à fait différent. Dès le début, et dans tous ses propos, il a dit non, ce qu'il faut faire, c'est créer des capacités européennes au niveau européen. Par exemple, pour gérer nos frontières. Par exemple, pour gouverner la monnaie unique. Par exemple, pour combattre le chômage, surtout le chômage des jeunes dans le sud de l'Europe. Donc, lui, il n'a pas une vision classique intergouvernementale de l'Union européenne, mais plutôt une vision comme nous, pro-européens, l'avons. Et donc, ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait, cette position communautaire fédéraliste, je dirais, de l'Union européenne, c'est en fait la position classique de toujours de l'Allemagne. Mmh. Ce n'est que depuis la réunification de l'Allemagne que ça a changé. Et donc j'espère qu'il va y avoir quand même une chimie entre ces deux-là, entre la chancelière et les présidents français maintenant, donc pour retourner à cette thèse-là.
Et donc Guy Verhofstadt, la réponse à la défiance à l'égard de l'Europe, c'est de dire aux gens on va aller vers le fédéralisme.
Mais c'est pas, il faut pas. Je sais que c'est très difficile peut-être de l'expliquer en France, mais il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Ça ne veut pas dire un État énorme, etc., un super État au niveau européen. C'est le contraire qui est vrai. Moi, je dis toujours à ceux qui me demandent qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je dis quel est l'État le plus puissant au niveau mondial. C'est les États-Unis. C'est quoi? C'est un État fédéral. Et quand on me demande quel est l'État qui fonctionne le mieux pour le moment avec les meilleurs résultats au niveau économique en Europe, c'est quel État? C'est l'Allemagne. C'est quoi l'Allemagne? C'est un État fédéral. Dans un État fédéral, il faut savoir, ce n'est que des tâches et des compétences qui sont mieux faites, où il y a une valeur ajoutée au niveau européen, voilà ce qu'on fait au niveau européen. Mais tout le reste, ça va continuer au niveau national. C'est une coopération, une division de travail, je dirais, entre les États-nations d'une part et cette autorité démocratique supranationale qu'il faut encore créer et qui était, je veux quand même le rappeler, l'idée initiale de nos pères fondateurs. Ce que M. Macron a en tête, c'est en fait faire revivre ces idées splendides, je dirais, des années 50 au moment que l'Union européenne a été créée.
Et cette esquisse d'Union européenne fédérale, Guy Verhofstadt, elle se fait à combien ? En petits groupes, petits nombre?
Bon, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, des opt-in, des opt-out, des exceptions, des coopérations renforcées, ça existe. Donc, c'est pas une nouveauté. Mais il faut, selon moi, la faire avec tous ceux qui veulent aller de l'avant. Et c'est pas seulement la France ou l'Allemagne. C'est l'Italie, c'est le Benelux, c'est l'Espagne qui est un pays très pro-européen. Donc, il y a suffisamment de pays pour qui il est très clair que maintenant, il faut créer cette vraie Union européenne. Parce que moi, je dis toujours, l'Union européenne, ça n'existe pas. Ce n'est pas une vraie Union. C'est encore, aujourd'hui, une confédération d'États-nations basée sur la règle de l'unanimité qui décide toujours trop faible et trop tard. Et c'est ça qu'il faut changer profondément maintenant, avec le plus de pays possible.
Quel mot, Guy Verhofstadt, avez-vous envie d'entendre ce soir lors de cette conférence de presse commune entre Angela Merkel et Emmanuel Macron?
Oh, le mot.
Les mots.
C'est difficile à dire. c'est surtout. Moi, j'aimerais surtout voir l'ambiance entre la chancelière et le président français. Parce qu'il est vrai que sans une bonne entente entre eux deux, on ne va pas avancer. Même, naturellement, si aussi d'autres pays comme l'Italie, le Benelux, l'Espagne, d'autres, enfin, jouent un rôle capital là-dedans. Mais s'il n'y a pas de nouveau une vision, comme ça a été le cas avec le couple Mitterrand-Kohl, par exemple, alors ça ne va pas marcher. Et j'espère que vraiment... Emmanuel Macron peut convaincre la chancelière de ne plus hésiter de l'avant maintenant.
Et on va voir ça dans une quinzaine de minutes. Merci Guy Verhofstadt, vous étiez avec nous en duplex et en direct depuis Strasbourg. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe au Parlement européen. Pour finir, correspondance de David Philippot, France Inter à Berlin. Emmanuel Macron très attendu par les politiques et les médias.
Oui, il est temps qu'Emmanuel Macron arrive à Berlin pour dire lui-même ce qu'il a en tête pour relancer et le duo franco-allemand et l'Union européenne, car depuis une semaine ici, son élection alimente de manière excessive à la fois les espoirs et quelques inquiétudes dans la presse allemande. Présenté comme le sauveur, c'est la une du magazine Die Zeit, qui lui met même une auréole. Et puis à l'opposé, il y a les Allemands qui le voient arriver avec méfiance, car les projets de Macron pour l'Europe forceraient l'Allemagne à ouvrir ses caisses. Der Spiegel fait sa une avec le visage du nouveau président français, ce cher ami dans les deux sens du terme, avec le sous-titre « Il sauve l'Europe et l'Allemagne paye ». Autant dire que cette première conférence de presse entre les deux dirigeants ce soir va être scrutée de très près ici, du côté de l'Élysée. On indique qu'on ne s'aventurera pas ce soir sur les terrains tabous. On va parler sécurité, protection sociale et investissement en commun.
Et impatience aussi, j'imagine, du côté de la chancelière.
Oui, Angela Merkel, devant micro et caméra à la mi-journée, a déjà souhaité la bienvenue à son homologue. Mais interrogée par un journaliste sur le point de savoir si elle pouvait ou si elle voulait conseiller son homologue sur les réformes à mener, la chancelière a réagi avec agacement.
Emmanuel Macron a gagné l'élection et il a proposé à son peuple de regarder l'avenir avec optimisme. Et je crois qu'il sait exactement ce dont la France a besoin et ce qu'elle doit faire. Et ce n'est pas à moi d'arriver et de commencer à lui expliquer ce que la France doit faire. J'ai une confiance totale en lui. Et qu'il sache qu'après avoir développé son point de vue, nous verrons où nous pouvons bien travailler ensemble. Nous aussi, nous avons des choses à apprendre de la France. Et c'est pour cela que j'y vais, avec l'esprit ouvert, pleine de sympathie, d'amitié et de respect pour le travail que nous avons à mener en commun.
Voilà donc Angela Merkel dans cette correspondance de David Philippot. Encore un mot pour vous rappeler que la conférence de presse Merkel-Macron démarre à 18h45. Les détails à 19h sur Inter dans le journal de Sébastien Paour. Pharrell Williams.
Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. The sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom.
Freedom, Pharrell Williams sur Inter.
Bachelors, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, cette annonce de la Maison Blanche qui effraie les Nations Unies.
Ah oui, c'est vraiment ça et vous allez comprendre pourquoi. L'administration Trump a en effet réaffirmé il y a quelques jours ce que le candidat à la présidentielle américaine avait déjà dit durant la campagne, son intention de réduire de 40% la contribution des États-Unis au budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Intention qui provoque, vous vous en doutez, un véritable branle-bas de combat au sein de l'organisation. Bonsoir Johanna Hochstein en direct de Bruxelles.
Bonsoir Michael.
Alors vous avez rencontré précisément à Bruxelles le nouveau responsable de ces opérations onusiennes, le français Jean-Pierre Lacroix. Quel est d'abord, Johanna, son degré d'inquiétude ?
Alors pour l'instant, il ne s'agit que de menaces, mais on les prend très au sérieux aux Nations Unies. Si l'administration américaine décidait de les mettre à exécution, ce serait un sacré coup dur pour l'organisation, parce que la contribution des États-Unis équivaut en fait à un tiers du budget total des opérations de maintien de la paix.
Et du coup, est-ce qu'on prend les devants à l'ONU ?
Oui, il y a une réflexion qui est menée pour réduire les coûts de ces missions, comme l'explique le nouveau chef des opérations de maintien de la paix à l'ONU, Jean-Pierre Lacroix.
Nous avons de toute façon, quoi qu'il arrive, un projet pour faire évoluer le maintien de la paix. Et ce projet, il inclut aussi la perspective, à terme rapproché, de fermer celles des opérations qui ont atteint leur objectif. L'opération en Côte d'Ivoire, l'opération en Libéria et de transformer, parfois assez profondément, les opérations qui ont besoin d'être transformées. Et ça va générer des économies. Et nous sommes aussi dans une logique plus générale de rechercher partout où c'est possible la meilleure optimisation de nos ressources. Par exemple, sur le transport aérien. C'est un effort que, de toute façon, nous devons faire et que nous ferons.
Bon, et cette menace américaine de réduction des budgets a-t-elle déjà eu, Johanna, un impact sur le terrain ?
Oui, en République démocratique du Congo, par exemple, il y a quelques semaines, sous la pression des Américains, le Conseil de sécurité a décidé de réduire les effectifs militaires de la MONUSCO de 3600 casques bleus. Les missions au Soudan sont également dans le viseur des États-Unis et pourraient être les prochaines à être réduites.
Johanna Holstein à Bruxelles, merci.
Et de Bruxelles à Nairobi, Michael. Nairobi, la capitale kényane, qui est aujourd'hui un gigantesque chantier à ciel ouvert.
Et un peu partout dans la ville, hein, vous les voyez en ce moment même en cours de construction d'impressionnants gratte-ciel, Nicolas. Des tours d'une hauteur jusqu'ici jamais vue dans la capitale kényane. 150, 200 mètres et bientôt un peu plus de 300 mètres. Rien n'est trop haut pour cette ville qui politiquement et économiquement se rêve au sommet de l'Afrique. Alors quel est l'impact de ces gratte-ciel sur la population, sur l'urbanisme, dans une capitale, on le sait déjà, totalement chaotique, congestionnée. Bonsoir Bruno Meyerfeld, correspondant de France Inter au Kenya.
Bonsoir.
Alors pour bien comprendre l'ampleur de ces bouleversements, Bruno, vous êtes monté au sommet de l'actuel plus haute tour de Nairobi.
Oui, c'est la tour de la société financière UAP All Mutual. Elle mesure 163 mètres et tout en haut, je retrouve Robert Ndewiga, chargé de communication, qui me décrit la vue plongeante sur la ville.
Ok, là, on est sur le point le plus élevé de Nairobi. D'ici, on peut voir le centre-ville, la circulation et le tohu-bohu incroyable de Nairobi, qui est vraiment une ville très agitée.
Et en fait, là, on voit toute la ville et on voit même au-delà.
Oui, le matin, quand il fait beau, on peut voir les pics enneigés du mont Kenya et même au loin, un petit bout du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, qui est à 200 ou 300 km d'ici.
Donc là, il pleut un petit peu. On va rentrer à l'intérieur pour continuer à discuter.
Cette tour, c'est la reconnaissance pour Nairobi. Ça montre que la ville est bel et bien une capitale financière et le véritable hub de l'Afrique centrale et orientale. Le plus grand aéroport est à Nairobi, tout comme la plupart des grandes sociétés financières. Avec cette tour, les actionnaires de UAP Old Mutual ont voulu montrer qu'ils étaient solidement implantés à Nairobi. On sait que beaucoup d'autres entreprises viendront faire du business ici. À UAP Old Mutual, on est fiers d'être des pionniers.
Et oui, des pionniers, car il y a des dizaines de projets de tours de ce genre à Nairobi. Le chantier le plus important, c'est celui du Pinnacle. Deux tours construites par la compagnie pétrolière AS Petroleum pour 178 millions d'euros. Avec 300 mètres de haut, ce sera de très loin le plus haut gratte-ciel d'Afrique.
Bon alors, projet, hein, on le comprend, très ambitieux, Bruno. Mais qu'en pensent les habitants eux-mêmes chez vous à Nairobi ?
Eh bien, pas que du bien. Le Pinnacle, par exemple, ce sera un immeuble de verre, impersonnel, genre Dubaï. Je vous propose d'écouter l'avis d'Alfred Omenia. Il est architecte et directeur d'EcoBuild Africa.
Ce qui est triste, c'est qu'on ne peut pas dire que ces nouvelles tours soient kényanes. Si vous les prenez une par une, vous êtes bien incapable de dire si elles ont été construites en France, à Chicago ou à Hong Kong. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de définition pour dire à quoi doit ressembler une tour à Nairobi. Et puis, de toute façon, la plupart de ces tours ne respectent pas la loi. C'est un secteur très corrompu. N'importe qui peut construire n'importe quoi dans cette ville. Et pour dire la vérité, Nairobi ressemble de plus en plus à un bidonville en hauteur.
Bon, les mots sont durs, hein, sont forts, bidonville en hauteur. Mais en réalité, Bruno, qui va concrètement utiliser et habiter ces tours ?
Eh bien, c'est simple, par les riches et même par les très très riches. Le Pinnacle, comme ses congénères, accueillera des multinationales, des centres commerciaux de luxe et des hôtels 5 étoiles. Nairobi est pourtant rempli d'embouteillages et de pollution. La moitié de ses habitants vivent dans des bidonvilles. La ville aurait donc bien besoin de tours, mais plutôt de tours aux prix abordables. C'est l'avis de Roger Vandenberg, spécialiste de planification urbaine aux Nations Unies.
Le plus gros problème avec les gratte-ciels, c'est la manière dont ils s'inscrivent dans la ville. Les tours requièrent de grosses infrastructures, génèrent beaucoup de circulation. Augmenter la densité sans avoir amélioré les transports publics ou les aménagements pour piétons ou l'espace public, par exemple, ça ne sert à rien en termes de qualité de vie. Mais tout ça, ça demande de la planification urbaine et une bonne gouvernance. Mais ça ne vient pas tout seul.
Et oui, et les nouveaux gratte-ciel pourraient donc avoir un effet plutôt négatif sur Nairobi, une ville dont la population devrait passer de 4 à 6 millions d'ici à peine 10 ans.
Bruno Meyerfeld, correspondant de France Inter à Nairobi, donc au Kenya. Merci. Et pour finir, Nicolas, on reste sur le continent africain, direction maintenant Lomé, au Togo, où pas moins de 4 chaînes de télévision consacrent un long reportage au même homme, son nom, Bonaventure Boma. Et sa profession, je vous laisse deviner. Écoutez.
Nous avons une commande jusqu'à 2500 petits pains pour cette unité, sans compter nos commandes habituelles. Bien qu'en petits pains, nous allons tourner autour de 4000 petits pains pour ce soir. Ces pains, à partir de 23h, doivent quitter pour faire une longue distance. Ça va en dehors de Lomé, Alors, nous devons vite faire pour que ça puisse prendre le chemin.
La différence, c'est la façon dont nous pétrissons notre farine. On a un secret de pétrissage. Chaque usine a son secret de fabrication, ce qui fait que nous aussi, nous avons notre secret.
Voilà, et un secret bien sûr jalousement gardé. Alors, quel est le métier de Bonaventure Boma ?
Petit pain, farine, boulanger.
Il est boulanger et pas n'importe quel boulanger. C'est le plus célèbre de Lomé et même de tout le Togo, car c'est lui qui a popularisé la baguette à la française, d'abord dans la capitale, puis dans l'ensemble du pays et même au-delà. En quelques années, Bonaventure Boma est devenu un symbole de réussite. Plus de 5000 baguettes sortent chaque matin de ses fours. Son pain se retrouve sur les meilleures tables de la capitale, hôtels, restaurants, grandes entreprises, ambassades et particuliers aisés. Et son exemple a déjà séduit jusqu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Bonaventure Boma est aujourd'hui en quelque sorte un ambassadeur du pain et célébré d'ailleurs comme tel en cette semaine de la fête du pain, c'est jusqu'à dimanche. Les plus hautes autorités du Togo l'avaient même littéralement célébré il y a 2 ans à son retour de la foire mondiale des boulangers, c'était à Milan. Et pourquoi ? Et bien tout simplement parce que notre artisan avait ébloui la planète boulangère en dévoilant une baguette à base de farine de sorgho, de manioc et d'igname, céréales largement cultivées dans le nord du Togo, contrairement, vous le savez, au blé rare et beaucoup plus cher. À demain.
À demain, Michael.
The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
18h44, Trump à la Maison-Blanche, notre rendez-vous du lundi en direct de Washington. Frédéric Carbone, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Le limogeage, Frédéric, du directeur du FBI continue à susciter une puissante onde de choc chez vous, à la fois sur la forme et le fond.
Oui, et on peut même dire que c'est la forme, la méthode brutale pour l'éviction, les mots très durs ensuite à l'encontre de James Comey, puis les menaces à peine voilées si lui venait à l'idée de parler à la presse, la forme donc qui inspire ce fond d'inquiétude, de gravité, d'effroi même, qui accompagne cette décision de Donald Trump. Et l'illustration la plus significative, ce sont les propos de James Clapper, l'ancien patron du renseignement américain, un homme très discret, qui parle peu, et qui hier était sur plusieurs plateaux de télévision pour exprimer cette forme d'état d'alerte démocratique.
Ce qui s'est passé la semaine dernière est très inquiétant, très dérangeant pour moi. Je pense que nos institutions subissent une agression externe, avec l'interférence russe, mais aussi une agression interne.
À l'intérieur, du fait du président ?
Exactement. Les pères fondateurs ont créé un système avec 3 branches égales au gouvernement et ont imaginé une série de contre-pouvoirs. Je pense que ce système est attaqué et affaibli.
Et James Clapper ajoute que ses interlocuteurs au FBI sont très inquiets. Il y a une question de confiance clairement posée entre Donald Trump et l'institution. Ce sera le premier chantier du successeur de James Comey. La nomination pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Mais le candidat désigné, quel qu'il soit, devra ensuite être approuvé par le Sénat américain.
Et quelles sont les réactions politiques, Frédéric, à ce limogeage ?
Écoutez, vous en doutez, il y a unanimité chez les démocrates pour dénoncer une forme d'abus de pouvoir, une dérive autoritariste et pour relancer leur exigence de nomination d'un procureur indépendant pour superviser l'enquête russe. Comment, disent-ils dans ces conditions, le FBI et le ministère de la Justice dont il dépend pourraient-ils être crédibles dans ce dossier ultra sensible ? Mais dans l'entourage de Donald Trump, on défend la décision du président américain. Voilà par exemple Nikki Haley, figure du Parti républicain, ambassadrice aujourd'hui auprès des Nations Unies.
Le président est le patron de ce pays. Il peut nommer ou limoger qui il veut. C'est son droit et que cela vous plaise ou non, c'est la vérité. Ce qu'il cherche à faire, c'est à constituer sa propre équipe. Il ne passe pas son temps les bras croisés. Quand quelque chose ne va pas, il tranche. Et si les gens sont mal à l'aise, c'est parce qu'il agit. Il ne fait pas que parler, il agit.
Alors bien sûr, vous avez des élus républicains plus embarrassés, notamment par la déferlante de tweets de Donald Trump, sous-entendant qu'il a enregistré des conversations avec James Comey et qu'il ferait bien de se méfier. Mais de manière générale, on reste dans un mélange de silence gêné et de suggestions que l'on ne change pas Donald Trump, qu'il faut bien faire avec, ce qui provoque la colère d'Anna Navarro, une stratège républicaine qui en appelle à la conscience de ses camarades.
Quand il menace littéralement l'ancien directeur du FBI ou quand il s'en prend à des juges sur Twitter, les gens attendent que les dirigeants condamnent cela. Être responsable républicain ne signifie pas que vous êtes dans le culte de la personnalité de Donald Trump. Quand il fait ce genre de choses, vous avez votre cerveau, votre conscience, votre loyauté vis-à-vis de la Constitution qui vous disent de parler, de vous lever et d'agir.
En fait, on l'a bien compris, Nicolas, dans ce genre de tempête, les Républicains font le dos rond, ils attendent que ça passe. Ils savent toutefois que la semaine dernière a été dévastatrice et que le bénéfice politique de l'adoption de la réforme de la santé a été effacé en quelques heures.
Les porte-parole de Trump, Frédéric, ont évidemment été pris dans la tempête, mis en grande difficulté par la presse. Du coup, le président, Frédéric, veut supprimer les briefings, comme on dit, les briefings quotidiens.
Ouais, ces conférences de presse qui sont pourtant un rituel de la Maison-Blanche, une institution, là aussi de la vie démocratique américaine. Mais c'est vrai que, porte-parole de Donald Trump, c'est sans doute le travail le plus inconfortable que l'on puisse imaginer. Et avec le limogeage de James Comey, on a atteint la caricature avec un président qui démonte toutes les versions que son entourage a péniblement essayé de faire passer. Et avec un porte-parole, Sean Spicer, qui en était réduit mardi dernier, quelques heures après l'annonce choc, à se cacher dans les buissons de la Maison-Blanche pour échapper aux questions dérangeantes. Donc oui, Donald Trump, qui est souvent devant sa télévision pour regarder cet exercice, il songe à le supprimer et il s'en explique chez ses amis de Fox News.
Je suis très actif et il est impossible à une, deux ou trois personnes de mon service de presse d'expliquer tout ce que je pense et tout ce que je fais. Et s'ils font une petite erreur, la presse se jette dessus et cela fait les gros titres pendant deux ou trois jours. J'adorerais supprimer ces points de presse tout simplement, sauf à avoir une conférence de presse tous les 15 jours que je ferai moi-même. Ça, c'est une bonne idée.
Toujours l'idée centrale de Donald Trump, faire sans intermédiaire le face-à-face permanent entre lui et le peuple. Mais vous avez bien compris qu'on est dans une période très tendue entre le président et la presse américaine. Écoutez par exemple Jake Tapper, une des voix de CNN, il y a quelques jours, au début de son émission.
La Maison-Blanche, visiblement, n'aime aucune question, mais que des reporters s'interrogent sur ce qui s'est passé, c'est parfaitement approprié et nous allons continuer.
Et si la période, Nicolas, vous rappelle les années 70, Nixon et le Watergate, vous n'êtes pas le seul. Karl Bernstein, un des auteurs du scoop mondial à l'époque pour le Washington Post, dit que ce qui se passe est même plus inquiétant. Et Dan Rather, qui avait couvert le scandale pour CBS, écrit sur son blog « Je n'ai jamais vécu une semaine comme celle-là. Je n'ai jamais vu un grand parti défendre autant d'ineptie et d'incompétence. »
Et comme si tout cela ne suffisait pas, Frédéric, Trump enflamme aussi le monde sportif.
Rien n'est épargné, aucun secteur n'est épargné. Et voici par exemple ce que vous pouvez entendre sur un terrain de lacrosse ces jours-ci. Lacrosse, pour ceux qui ne sont pas familiers des sports américains, c'est une sorte de hockey sur gazon. Bon, ben voilà, ça au moins, ça ne déplaît pas à Donald Trump. Pour motiver l'équipe locale, on a remisé les classiques au vestiaire et c'est un discours de Donald Trump qui résonne au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain. Les réseaux sociaux s'emballent. Si quelqu'un a été offensé, je m'excuse, explique l'entraîneur de cette équipe universitaire. Et promis, on reviendra à une musique plus traditionnelle, Eye of the Tiger, peut-être pour la prochaine rencontre de championnat.
Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci. Dans quelques instants, l'édito de Vincent Giret, juste après Feist sur Inter.
Consumed, growing.
Magnifique Feist sur Inter, 18h54.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et c'est l'édito de Vincent Giré du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez ce soir Vincent au Royaume-Uni où l'attaque informatique mondiale du week-end a créé une polémique nationale Vincent.
Alors Nicolas, savez-vous quelle est l'institution préférée de nos voisins britanniques?
La reine, je sais pas.
Voilà, j'étais sûr, vous alliez me répondre la monarchie, la famille royale. Eh bien non, pas du tout. L'institution préférée des Britanniques, c'est l'hôpital public, le fameux NHS, le National Health Service, fondé en 1948, une énorme organisation qui fournit l'essentiel des soins, depuis la médecine générale jusqu'aux salles d'urgence, des soins dentaires jusqu'aux soins de longue durée, une institution qui emploie plus d'1,5 million de personnes, et dont patatras, l'attaque informatique, la cyberattaque mondiale, qui a touché plus de 150 pays, a paralysé dès vendredi après-midi le fameux NHS, et comme en plus nos voisins britanniques sont en campagne électorale, eh bien cela a provoqué une émotion nationale, un scandale politique national. L'opposition travailliste, qui est par ailleurs en très grande difficulté, si l'on en croit les sondages à 3 semaines des législatives, eh bien s'est jetée sur l'occasion pour dénoncer l'austérité budgétaire mise en œuvre par les conservateurs qui aurait empêché donc cette énorme administration de financer la modernisation de ses systèmes et outils informatiques. Le parti travailliste s'affiche en défenseur éternel et intransigeant du service public de la santé. C'est une cause ici nationale autour de laquelle il est facile de fédérer et les travaillistes ont donc enfoncé le clou. Et d'autant plus que l'affaire a des conséquences concrètes, importantes. Le fonctionnement des hôpitaux, les consultations de ville sont largement perturbées. Des interventions chirurgicales ont même dû être reportées.
Mais est-ce que le NHS, je le dis bien, NHS, Vincent, était en état de vulnérabilité?
Écoutez, vu le nombre d'entreprises touchées dans le monde, le moins qu'on puisse dire, c'est que le NHS n'était pas le seul. Hein. Mais oui, disons qu'à l'évidence, les systèmes informatiques des hôpitaux britanniques commencent à dater sérieusement. L'opposition travailliste accuse les gouvernements conservateurs d'avoir supprimé 1 milliard de livres, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros, dans le budget informatique du NHS depuis 2010. Et puis le renouvellement des protections informatiques était programmé en 2014. Manifestement, cela n'a pas été fait. Et le NHS a même révélé avoir été la cible d'attaques multiples ces 3 dernières années. 88 attaques de type rançonnage entre 2015 et 2016. Bon, c'est à peu près 2 par semaine, un peu moins. Bon, c'est quand même beaucoup. Même si, pour l'attaque de ce week-end, on ne sait pas encore si le NHS a été sciemment ciblé ou si l'attaque s'est propagée mécaniquement.
Et l'ironie de cette affaire, Vincent, c'est que le parti travailliste lui-même a été piraté.
Eh bien oui, et celui qui crie au loup s'est fait lui-même pirater. Bon, c'est sans doute plutôt une fuite politique qu'un piratage informatique en bonne et due forme. Mais quand même, cette histoire est savoureuse. Le programme du parti travailliste que tout le monde attendait, qui avait été concocté dans le plus grand secret, c'est un document de 43 pages qui était dans les ordinateurs du parti, eh bien soudain, on l'a retrouvé à la une de plusieurs médias britanniques, comme si Jeremy Corbyn, le chef du parti travailliste, avait perdu complètement le contrôle de sa campagne. Alors ce programme donne en tout cas un vrai coup de barre à gauche, et en plus de la défense acharnée du NHS, ce programme prévoit un important paquet de nationalisation, renationalisation totale des chemins de fer par exemple, ou partielle de l'électricité et du gaz notamment. Mais la vérité, c'est que la défense du service public de la santé et l'instrumentalisation de l'attaque informatique mondiale ne devraient pas sauver le parti travailliste, qui semble, comme le parti socialiste français, à bout de souffle, en fin de cycle idéologique et au bord de l'éclatement. Même les élus de gauche, majoritairement hostiles à Jeremy Corbyn, pronostiquent une catastrophe électorale. Les conservateurs ont entre 15 et 20 points d'avance dans les sondages, et les travaillistes ne pourront même pas compter sur un éventuel piratage des élections, Nicolas.
Vincent Giré du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, un téléphone sonne encore très politique ce soir. Nous sommes dans le moment des passations de pouvoir, hier à l'Élysée, aujourd'hui à Matignon, demain dans les ministères. Intervenez, amis auditeurs, dites-nous ce que vous avez pensé de la journée d'hier, pleine de pompes républicaines. Que pensez-vous aujourd'hui de l'arrivée d'un Premier ministre de droite à Matignon? Vos questions, 01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter, avec le mot-clé Telson.